tire du prophète Ésaïe, un chapitre premier. Vous savez, Ésaïe, c'est l'un des prophètes qui a le plus parlé de Jésus, qui a le plus parlé du Messie. Et Ésaïe parle tellement de Jésus-Christ qu'il y a un des pères de l'Église qui ne parle pas de prophétie d'Ésaïe, mais qui parle plutôt de l'évangile d'Ésaïe, tellement qu'il parle de Jésus. Et Ésaïe, c'est un livre très important. Et il y a quelqu'un qui a dit, si, parmi les six livres, on pourrait dire, qui sont comme des monuments dans la Bible, donc Ésaïe fait partie d'eux, il y en a six, on pourrait dire, qui sont vraiment des livres vraiment tout en haut, au sommet. Il y a d'abord la Genèse, qui nous aide à comprendre tous les commencements. Et puis il y a les psaumes, le livre de prière, qui nous apprend à prier. Et puis il y a Ésaïe. Après ça, nous avons l'évangile de Jean. Et puis, l'épître aux Romains. On peut dire sur l'épître aux Romains basé la grande partie de la doctrine chrétienne. Et enfin, l'Apocalypse, qui nous parle de toutes les fins. Si la Genèse nous parle de tous les commencements, l'Apocalypse nous parle de toutes les fins. Et donc, Ésaïe parle beaucoup de Jésus. Et c'est un livre que, on pourrait dire, c'est comme la Bible en miniature. Il y a combien de livres dans la Bible? Pardon? 66. Et il y a combien de chapitres dans Ésaïe? 66. Et donc dans ces 66 livres, nous avons 39 livres qui concernent l'Ancien Testament et puis après les 27 autres, donc c'est le Nouveau Testament. Et Ésaïe est aussi divisé en deux parties. Il y a les 39 premier livre, les 39 premiers chapitres, grosso modo qui parle de jugement, de la loi, etc. Et puis, il y a la deuxième partie qui commence avec le chapitre 40, qui commence avec consoler mon peuple, qui parle surtout de la grâce et du salut. D'ailleurs, Ésaïe, vous savez ce que ça veut dire, Ésaïe, le mot Ésaïe? L'Éternel sauve. Et donc, Ésaïe, c'est vraiment la Bible en miniature. Et je pourrais continuer ainsi de suite, mais je vais juste simplement m'arrêter là pour dire comment que le livre d'Ésaïe est un livre important. Maintenant, le chapitre 1 aussi, c'est comme un résumé du livre d'Ésaïe. On a déjà un peu la structure du livre Ésaïe. Et dans ce chapitre, il est question du problème de l'homme et de la solution à ce problème. Donc, je vous invite à lire. On va lire simplement les 20 premiers versets. Et à partir de là, on va voir quel est le problème de l'homme. Et quelle est la solution? Bon, bien sûr, dans ce chapitre, il est surtout question d'Israël, ou plus particulièrement de Judas. Donc, mais lorsqu'on parle de Judas, le problème de Judas, c'est le problème de l'homme en général. Alors, Ésaïe, chapitre 1er. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment vous infligez? Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos récoltes, vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Et elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel à parler. Ici, on voit la frustration de l'Éternel, la colère même de l'Éternel. Mais en même temps, il y a cet amour pour son peuple. L'Éternel parle et il n'y a personne qui écoute. Alors il prend à témoin les cieux et la terre. Cieux, écoutez! Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Dieu parle et personne n'écoute. Et on voit cette chose aussi, cette interpellation, dans d'autres passages, où dans Deutéronome 32, verset 1, et lorsque Ésaïe parle, il pense à l'alliance que l'Éternel avait faite avec Israël. Donc, Deutéronome 32, 1, « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Ce qui est désolant dans cette image ici, c'est que l'Éternel avait fait alliance avec son peuple. L'Éternel avait délivré Israël de l'esclavage et il avait fait d'Israël son enfant. Et que se passe-t-il? L'Éternel a adopté Israël. Nous revenons à notre passage dans Ésaïe, Ésaïe 1, 2. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Imaginez, Dieu non seulement a créé Israël, non seulement Dieu a engendré, si on peut dire, Israël, mais Dieu a nourri Israël. Dieu a élevé Israël. Dieu a protégé Israël. Et que se passe-t-il? Eh bien, ils se sont révoltés. Quel est le problème de l'homme? Le problème de l'homme, c'est la rébellion et l'ingratitude. La rébellion et l'ingratitude. Dieu les a nourris. Dieu les a rachetés tout d'abord d'Égypte. Dieu les a délivrés. Dieu a fait de son peuple. Il les a nourris, il les a protégés, il les a élevés. Et ils se sont révoltés. Si seulement c'était comme, je l'ai dit tout à l'heure, un puissant dictateur, quelqu'un qui torture, mais c'est quelqu'un qui leur a manifesté son amour, qui les a nourris, qui les a élevés, et pourtant ils se sont révoltés. Et alors écoutez ceci, verset 3, le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. L'Éternel ici utilise une figure pour montrer à quel point le peuple est tombé bas. Le bœuf et l'âne, on pourrait dire, les deux animaux les plus stupides. Et pourtant, le bœuf connaît son possesseur. Le bœuf reconnaît qui est son possesseur, et l'âne aussi, la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Et quand je dis le problème de l'homme, c'est parce que ce problème, c'est pas seulement le problème d'Israël, le problème de Juda. Aujourd'hui encore, les hommes disent, ah oui, Dieu n'existe pas. C'est comme s'ils ils venaient au monde par eux-mêmes, comme ça, tout d'un coup, ils sont apparus. Et Dieu n'existe pas, disent-ils. Et non seulement Dieu est celui qui nous a créés, et Dieu est celui grâce à qui nous vivons aujourd'hui. Si nous avons le souffle de vie, n'est-ce pas l'Éternel qui nous donne le souffle de vie? Si Dieu décide que nous mourrons en cet instant, il peut le faire. Comme je l'ai lu la dernière fois dans Colossiens, il est dit, tout a été créé par lui et pour lui, et tout subsiste en lui. Nous subsistons en Dieu. Nous subsistons en Dieu. Et l'homme dit, ah, Dieu n'existe pas. Tout est arrivé par hasard. Il y a eu un Big Bang. Le bœuf connaît son possesseur. Quand le bœuf voit son possesseur, il le sait. Quand le chien voit son maître, il le sait. L'âne, l'animal le plus stupide, on pourrait dire, parmi les plus stupides, reconnaît la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mais l'homme ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. En anglais, il dit, ils n'ont pas de compréhension. Ils ne comprennent rien. La rébellion et l'ingratitude. C'est comme le fils dans Luc 15 qui en a marre de rester chez son père et dit, je veux ma liberté. Et il part. Il part. J'en ai marre, je veux être mon propre chef. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné celui qui est rempli d'amour. Ils ont abandonné celui qui est le juste. Ils ont abandonné celui qui est le Saint d'Israël, c'est-à-dire celui qui est incomparable, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est l'alpha et l'oméga. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il est saint? Saint, ça veut dire mis à part, séparé. Donc celui qui est autre de tous les autres dieux qu'ils pouvaient connaître. Dieu dit dans Ésaïe, je ne suis pas comme les dieux que vous fabriquez, qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des mains qui ne savent pas toucher, qui ont des pieds qui ne peuvent pas marcher. Mais je suis celui qui peut tout, qui est au-dessus de tout, et celui qui est fidèle. Il est saint, il est autre que tout ce que vous avez connu avant. Il est autre par son caractère. Il est fidèle. On peut compter sur lui. Et pourtant, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Alors, lorsqu'il y a péché, bien sûr, il y a aussi des conséquences. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. On voit donc qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peuple malade, c'est un peuple souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Car qui peut faire ces choses-là? Il n'y a que l'Éternel qui peut panser vraiment. Il n'y a que l'Éternel qui peut bander vraiment. Il n'y a que l'Éternel qui peut adoucir par l'huile. Et donc c'est pourquoi, eh bien, toutes ces blessures-là, toutes ces maladies-là restent non soignées et non guéries. Rappelez-vous de l'enfant de Luc 15, lorsqu'il est parti. Il n'y avait pas de solution ailleurs. Il n'y avait pas de solution ailleurs. Le problème d'Israël est représenté par deux images. La première image, c'est la maladie. Les blessures, les contusions, les plaies vives. Ensuite, la deuxième image, verset 7, « Votre pays est dévasté. » Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos dieux. Ils ravagent et détruisent comme des cabanes, comme des barbares, pardon. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Maintenant ici, on ne sait pas exactement si Esaïe parle de quelque chose qui s'est passé dans Juda, ou bien c'est quelque chose qui va se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les prophéties, dans les livres prophétiques, le passé et le futur, c'est... Donc, le prophète peut parler du futur comme quelque chose qui est déjà présent. Et alors, j'aimerais rappeler le contexte ici. Ici, le prophète s'adresse à Juda. Alors, c'est dans quel contexte cela se passe? Dieu avait dit à Israël, s'il ne respecte pas ses lois, ses commandements, eh bien, il va les chasser de la terre promise, de la terre qu'il leur a donnée. Eh bien, ils ne demeureront pas dans cette terre. Parce qu'ils doivent se rappeler que si Dieu les a mis dans cette terre, c'est parce que les premiers habitants de cette terre-là, eh bien, ils faisaient des abominations aux yeux de l'Éternel. Et Dieu a décidé de les chasser et de mettre Israël. Mais si Israël, vous faites la même chose, eh bien, je vais vous chasser aussi de cette terre. Et donc, pendant tout un temps, Israël était un royaume sous Saül, David et puis Salomon. Et puis après Salomon, donc vous savez que le royaume a été divisé en deux. Le royaume d'Israël a été divisé en deux. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et Dieu envoyait sans cesse ses prophètes pour avertir de revenir à lui. Mais comme le royaume d'Israël n'écoutait pas, et au royaume d'Israël, il n'y a eu que des mauvais rois. Alors, en 722, ils ont été envahis par la Syrie et déportés. Et donc, une partie des Juifs qui étaient sur place se sont mariés avec les envahisseurs. C'est ce qui a donné par après ce qu'on appelle les Samaritains. Donc, au nord, le nord avait déjà été envahi et une bonne partie du peuple était déportée. Et Juda a vu cela. Il devait se repentir. Donc Juda, bon, ils avaient pour eux, ils ont eu quelques bons rois, même si tous les rois n'étaient pas bons, mais certains d'entre eux étaient bons. Et Dieu a pris patience avec eux. Et ils vont attendre 135 ans avant que, à leur tour, ils soient déportés. Et donc, c'est dans ce contexte, Esaïe dit, eh bien, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, à vos frères, ceux du royaume du Nord, eh bien, vous devez vous repentir autrement. Eh bien, vous serez aussi dévastés. Vous serez dévastés. Et là, le prophète a vu ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé. Et alors il dit, votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Si vous ne vous repentez pas, voilà ce qui va vous arriver. Ou si vous ne vous repentez pas, eh bien vous allez continuer à être dans cette situation. C'est ça les conséquences du péché. Et au verset 9, on va voir encore la bonté de Dieu. Verset 9, « Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. » Vous savez, Sodome et Gomorre, hein, dans la Genèse, qui étaient les villes les plus abominables que Dieu avait détruites. Et donc ici, malgré la désobéissance du peuple, malgré leur révolte, heureusement, il y a eu un petit reste. Il y a un petit reste. Et à cause ou grâce à ce petit reste, Dieu va avoir compassion de Juda. Donc voici le problème de l'homme. C'est la rébellion, l'ingratitude. Et au moment où Esaïe parle, c'était, on a lu le premier verset, donc, prophétie d'Esaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Ici, particulièrement en ce moment, c'est au temps d'Ozias. Et au temps d'Ozias, c'était un roi passablement bon, mais c'était le roi qui a régné le plus longtemps en Israël. Et à cette époque-là, c'était la prospérité. Il y avait, en fait, matériellement, tout allait bien. Et alors, parce que tout allait bien, ils ont oublié l'Éternel. Ils disaient que toutes les richesses qu'ils ont eues, c'est grâce à leur propre travail. Lisons Deutéronome 8, ce que Dieu leur avait dit déjà au départ. Avant même d'entrer sur la terre promise. Dieu leur avait déjà averti. Deutéronome 8, on ne va pas lire tout le chapitre, mais on va lire à partir du verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Verset 10. Lorsque tu mangeras, et te rassasiras. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a les serpents brûlants et les scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, etc. Donc Dieu dit, souviens-toi que lorsque tu auras toutes ces choses, que c'est moi qui te les donne. C'est grâce à moi que tu les as eues. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant et obéis à ma parole. Mais Israël a fait tout l'inverse. Israël s'est enorgueilli, s'est rebellé et a oublié tout ce que Dieu a fait. Alors, quelle est la solution que eux ils proposent? Donc, on voit le problème de l'homme, c'est la rébellion et l'ingratitude. La solution de l'homme, on va voir à partir du verset 10, en revenant à Ésaïe 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Vous comprenez pourquoi il parle de Sodome, hein? Donc, puisqu'ils agissent comme Sodome, donc Israël, c'est Sodome. Ou Judas, c'est comme... Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que l'homme, la solution à leur problème, c'est une religion rituelle, tape à l'œil et hypocrite. Donc, on fonctionne dans la routine. Dieu dit qu'il faut des holocaustes. Ok, on va lui offrir des holocaustes. On va lui offrir des béliers. On va faire les fêtes comme, en fait, pas nécessairement comme il demande, mais nous, comme nous, on a envie. Et là, donc, l'Éternel est fâché. Verset 13. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Quel est le problème avec tout ça? Est-ce que Dieu a changé d'avis disant, non, je ne veux pas de holocauste de bélier, je ne veux pas d'holocauste de graisse de veau, je ne veux pas les sangs de taureau. Ce sont toutes des instructions que l'Éternel avait données à Moïse. Mais quel est le problème ici? C'est que ils faisaient cela à leur façon et il n'y avait pas le cœur. Il n'y avait pas le cœur. C'était tout simplement de l'hypocrisie. Il y avait la forme, mais le cœur n'y était pas. Et donc c'est pour ça que l'Éternel dit, verset 14, mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Pourquoi? Verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ce sang-là, c'est pas le sang des veaux, mais c'est le sang injuste. L'exploitation des veuves, l'exploitation des orphelins. Et tout cela. Et donc, ils pratiquent la forme, mais ils n'obéissent pas à l'Éternel. Ils n'obéissent pas à l'Éternel. C'est comme Jésus disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et donc Dieu dit non. Ce que je recherche, ce ne sont pas les holocaustes. Et David l'avait compris quand il dit, ce que l'Éternel veut, c'est un cœur brisé, un cœur pur. Ce ne sont pas les holocaustes. C'est pas ça que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche avant tout, c'est l'obéissance. Donc c'est ça l'hypocrisie. Il y a la forme, mais il n'y a pas le fond. Et c'est pour ça aussi, quand Caïn et Abel, chacun avait présenté son offrande, une offrande était acceptée, l'autre pas. Il y en a une qui était offerte avec un cœur sincère, mais l'autre, c'était pour la forme. Il y en a, par exemple, qui donnent pour la mission, juste pour apaiser leur conscience. Ok, je fais mon devoir. Si, par exemple, vous faites un petit sondage, comme on dit, sondage de rue, et des gens vont dire, ah oui, je suis assez bon pour aller au ciel, je donne aux pauvres, ou que sais-je encore, et moi, je ne suis pas un criminel, et donc, on fixe nous-mêmes les conditions. Mais ce n'est pas à nous de fixer les conditions. Mais c'est à celui qui est en haut. Et donc, voilà. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Dieu dit, ce n'est pas ça la solution. Mais Dieu a quand même une solution. Dieu aurait pu dire, écoute, tu t'es rebellé, tu es parti, eh bien que tu périsses. Tu as eu ce que tu méritais, eh bien, tu m'as trahi, tu m'as abandonné, tu m'as délaissé, eh bien, paye les conséquences. Mais non, Dieu est toujours là à la recherche de l'homme. Que dit-il au verset 16? Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Toutes ces choses-là que l'Éternel vous faisait, vous pouvez les faire, mais avant toute chose, il faut se purifier. Il faut abandonner la méchanceté. Il faut rechercher la justice. Il faut protéger l'opprimé. Il faut faire droit à l'orphelin. Il faut défendre la veuve. Verset 18, passage magnifique. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Venez, plaidons. Est-ce que tout est fini? Non. Viens, on va plaider. Viens, il y a encore une solution. Certaines personnes disent que la foi, c'est un saut dans le vide ou à la foi est aveugle. Non, la foi n'est pas aveugle. La foi est visionnaire. La foi est capable de voir ce que les autres ne voient pas. La foi, c'est voir les choses comme Dieu voit les choses. La foi, c'est voir plus loin que le présent. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire tout ce sang que vous avez fait couler, aussi horrible soit-il, si tu te repens, eh bien, il y a de l'espoir pour toi. Si tu te repens, le cramoisi. Donc c'est la couleur rouge du sang, en fait, à peu près comme le sang. C'est un parallèle. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Peu importe le péché que tu as commis, eh bien, si tu te repens, il y a encore de l'espoir. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La solution de Dieu, c'est la repentance et l'obéissance. C'est pas la religion rituelle, tape à l'œil, hypocrite. Mais c'est une repentance sincère. Comme David l'a fait. Et c'est pour ça que David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. David aussi a fait des choses horribles. Il a commis l'adultère, ajouté d'un meurtre, mais il a compris qu'il avait offensé Dieu. Et que lorsque le prophète de Dieu l'a confronté, il a dit, « David, c'est toi !» Il n'a pas dit, « Qui es-tu pour me parler, moi, en tant que roi ?» Il a reconnu son péché et il s'est humilié dans la prière et le jeûne. Et c'est pourquoi il pouvait écrire, « Si tu eusses voulu des sacrifices et des holocaustes, je t'en aurais offert. Mais tu te prends plein plaisir au sacrifice. Ce que l'Éternel désire, c'est un cœur pur, un cœur contrit et brisé. » David avait compris cela. Et c'est pour ça qu'il s'est humilié devant le Seigneur. Et Dieu a dit, « C'est l'homme selon mon cœur. » Et Dieu lui a donné une postérité éternelle. Une postérité éternelle à la personne de Jésus. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, c'est-à-dire si vous obéissez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, c'est-à-dire si vous n'écoutez pas, et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dans Ésaïe, il y a beaucoup de poésie. C'est un livre profond, mais en même temps, où il y a beaucoup de poésie. Et la poésie en question, ce sont des parallélismes. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur juste un ici. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, vous mangerez. Mais si vous résistez, vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. C'est-à-dire, vous serez mangé par le glaive. Hein? Donc, si vous êtes docile, vous mangerez. Mais si vous n'êtes pas docile, vous serez mangé. Quelle est la solution au problème de l'homme? La solution, c'est la repentance. Et l'Éternel dit, venez et plaidons. Peu importe ce que tu as commis dans le passé, eh bien, il y a de l'espoir. Et comme je l'ai dit, les deux premières parties du premier chapitre ici correspondent à la première partie du livre où il est question de jugement et la deuxième partie, il y a la grâce qui est offerte. Il y a le salut qui est offert par grâce. Venez et plaidons. Réfléchis. Rentre en toi-même. Fais comme le fils prodigue. Quand il a réfléchi. Dieu n'est pas contre quand on réfléchit. Ce que Dieu est contre, c'est quand on met notre intelligence au-dessus de lui et dire qu'on est plus intelligent que lui. C'est ça qui est mauvais. Mais le Seigneur nous a donné une intelligence. Il dit, réfléchis. Considère tes voies. Considère ta situation. Considère ta condition. Est-ce que le Seigneur répond à ta prière? Si le Seigneur ne répond pas à ta prière, regarde tes mains. Est-ce que tes mains sont remplies de sang, d'injustice, de désobéissance, Réfléchis, rentre en toi-même. Eh bien, si tu te repens, l'Éternel va accepter ton offrande. L'Éternel va accepter ta prière, va accueillir ta prière. Il ne va pas dire qu'il a en horreur l'encens. Il ne va pas dire qu'il est là de supporter donc ce que nous lui apportons. Mais nos prières seront comme une bonne odeur à l'Éternel. Amen. Lorsque nous sommes obéissants à l'Éternel, nos prières sont comme une bonne odeur à l'Éternel. Mais si nous sommes désobéissants, alors là, c'est tout l'inverse. Ça répugne au Seigneur. Parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Il veut un cœur sincère, un cœur pur. Nous avons tous nos faiblesses, nos manquements. Et Dieu est un Dieu de grâce pour nous faire grâce. J'en dis, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Nous avons tous péché d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons auprès du Père un avocat. Si nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais il ne faut pas se moquer de Dieu. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Donc ce matin, que chacun rentre à lui-même. Quelle est la religion que j'offre à Dieu? Est-ce que c'est une religion rituelle, tape à l'œil, hypocrite? Ou bien c'est la vraie religion? C'est-à-dire un cœur docile, un cœur repentant au Seigneur, qui dit: Seigneur, je veux faire les choses non pas à ma manière, mais à ta manière. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Faire exactement la prière de Jésus. N'est-ce pas ce qu'il nous a appris à prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite dans ma vie, autour de moi. Notre désir doit être que la volonté de Dieu soit faite. Et là, nous serons de véritables enfants qui plaisent au Seigneur. Alors ce matin, ne soyons pas des enfants rebelles, ingrats, qui se croient intelligents, mais qui sont en fait plus stupides que le bœuf et l'âne. Hein, c'est ce que Jérémie dit, hein. Celui qui est intelligent, c'est celui qui connaît Dieu. Tu peux avoir beaucoup de diplômes et être stupide, parce que tu ne connais pas Dieu. Celui qui est intelligent, c'est celui qui connaît Dieu, qui marche en communion avec Dieu. Parce que c'est lui qui décide de ta vie. Parfois, tu vois des gens qui sont jeunes et beaux, forts, etc. Mais après, il peut se passer qu'il y a un accident. Et puis, cette personne qui était costaud, belle, etc. Et puis, tout d'un coup, qui se retrouve immobile. Ou bien cette personne magnifique, fort, costaud, et puis après qui devient un vieux, qui n'arrive même pas à prendre soin de soi-même. Et quand tout va bien, on pense qu'on est fort, qu'on est maître du monde. Mais il suffit d'un événement. À propos, je suis en retard, c'est parce qu'il y a eu un accident sur la route. J'étais un peu choqué de voir que il y avait un accident, mais sur une partie où il y avait un ralentissement sur la route, je n'ai pas compris. les deux voitures étaient vraiment amochées. J'ai dit, comment est-ce qu'ils ont pu être, comment est-ce que ces voitures ont pu être si amochées alors que c'était une partie réduite de la route. Donc voilà, quand tout va bien, on pense qu'on est maître du monde, et puis il suffit d'un événement, d'une circonstance, et puis on se rend compte qu'on n'est rien du tout, et que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Alors, donc on ne se moque pas de Dieu. Alors, aujourd'hui, ne soyons pas des enfants rebelles, des enfants ingrats, mais soyons intelligents. Et si nous avons péché, demandons à Dieu de nous pardonner. Il dit, venez et plaidons. Ne te cache pas. Viens. C'est la chose la plus stupide que Adam avait pu faire. Dieu dit, Adam. Adam dit, non, je me cache. Je me cache parce que j'ai eu peur. Ce matin, il ne faut pas avoir peur de venir au Seigneur. C'est un Dieu de grâce. Il dit, viens, viens. Dieu peut te donner un nouveau commencement ce matin. Viens à lui. Et si tes péchés sont rouges, comme le cramoisi, eh bien, tu peux devenir blanc comme la neige. Que le Seigneur vous bénisse.